Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Morgan Raoult, cette histoire tirée de votre livre « Je ne souffle pas, je chante » qui paraît aux éditions Michelon. Est-ce qu'à la fin de cette histoire, on peut dire que vous êtes heureuse, Morgan?
Ah oui, je peux dire que je suis heureuse, oui.
Plus que si vous étiez première clarinette à l'Opéra de Paris ou à l'Orchestre National de France?
Ah, ça, je ne le saurais jamais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis heureuse et que j'ai aucune frustration de ne pas terminer...
Un parcours,
voilà, c'était pas le but finalement qui était important, c'était sûrement le chemin, voilà.
Parce que peut-être que finalement le système de la musique classique, vous avez fixé un objectif de musique classique, s'asseoir sur un pupitre au milieu d'un orchestre, et finalement vous avez une autre vie de musicienne que celle-là.
Oui, c'est vrai, mais je peux pas non plus nier le fait que ce qui me touche le plus en musique, c'est la musique classique, et quand j'entends le son d'une clarinette qui sort par-dessus tout l'orchestre symphonique, ça me donne des frissons énormes. Et là, tout à l'heure, vous avez choisi un extrait de la Tosca où on entend le solo de clarinette qui passe en même temps que le chanteur. Et ben, je trouve ça magnifique.
Le concerto pour clarinette de Mozart, qui est donc l'œuvre majeure pour le tube de tous les clarinettistes, est-ce que vous le jouez encore?
Oui, alors le concerto pour clarinette de Mozart, je le joue encore dans ma chambre.
Ouais.
Et en revanche,
pas en public.
En tout cas, ce qui est très drôle, c'est que j'ai mis un extrait de ce concerto dans à peu près tous mes spectacles. Donc oui, je le joue, mais en tout cas, je joue pas les trois mouvements et d'une forme plus légère, juste accompagnée par une pianiste.
Voilà. Donc c'est plus doux, quoi.
C'est plus doux.
C'est moins démonstratif.
C'est exactement ça. C'est la clarinette plus light.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la musique klezmer qui vous a sauvé de la dépression?
Alors, bien sûr, la musique klezmer, ça a été formidable parce que j'ai compris que, en fait, le souffle qu'il fallait mettre dans la clarinette, la pression qu'il fallait mettre dans une clarinette, en tout cas pour jouer le répertoire classique, eh bien, c'était pas tout à fait le même, même carrément pas le même pour jouer de la musique traditionnelle.
Donc la musique klezmer, on le dit parce que c'est de la musique juive.
C'est de la musique yiddish, oui,
qui vient des Ashkenazes, en fait, hein,
oui,
des peuples d'Europe centrale.
C'est ça, et en fait, c'est la musique, ils emploient la clarinette avec beaucoup de naturel, c'est presque de la voix humaine, et en fait, ça demande finalement beaucoup, beaucoup moins de pression d'air à mettre dans la clarinette.
Qui vous a finalement soigné de la dépression? Est-ce que c'est ce monsieur qui vous ouvre donc les horizons de la clarinette klezmer, ou est-ce que c'est la naissance de vos enfants?
Alors,
les deux mon général,
mais je crois bien que j'étais pas au bord de la dépression. Je pense que j'étais au bord de la grande tristesse de devoir renoncer à ma passion. Mais j'ai vraiment eu une enfance tellement positive, des parents tellement positifs.
Vous n'étiez pas en dépression?
Non, j'étais triste, mais pas en dépression.
Donc, ce qu'on croit comprendre, c'est que ça vous vient au fond de votre père. Il vous a insufflé ce que vous appelez un optimisme positif.
Oui.
De lui, hein, surtout de lui.
Oui, alors, mes deux parents sont positifs, mais mon père, c'est un optimiste. C'est jamais foutu avec lui. Tant qu'il y a de la vie, on vit. Il trouve des solutions. C'est un homme qui trouve des solutions. Et moi, j'ai grandi avec ça, et ce qui fait que chaque malheur... On l'accepte, enfin non, on l'accueille, mais on l'accepte pas toujours.
On le pose.
Et après, on cherche des solutions. Enfin, en tout cas, je crois que c'est ce qui m'a transmis. Et puis ma mère, elle, ce qu'elle m'a transmis, c'est elle a pas...
Elle est moins bénie, oui.
Oui, puis elle n'est pas dans la compétition, donc c'est pas grave, ma chérie, tu seras pas championne du monde de clarinette, mais tu joueras.
Tu seras heureuse quand même.
Et tu seras heureuse, voilà.
Est-ce que c'est ce mécanisme qui fonctionne lorsque, à l'âge de 6 ans, vous êtes violée?
Alors, à l'âge de 6 ans, en fait, ce qui m'a aidée, c'est l'amour de mes parents. Mais ce qui m'a aidée aussi, c'est justement, je me suis jetée dans une passion. Et je crois que c'est surtout ça. Et autour de moi...
C'est la musique qui vous soigne du viol.
Oui, la musique, en tout cas, fait que quand je joue, je suis heureuse, je suis bien, je supporte de nouveau la tendresse. Voilà, je peux redevenir celle que j'étais. Et en fait, je pense vraiment que... D'avoir une passion, d'avoir quelque chose qui nous remplit, ça peut colmater des choses abîmées.
Parce que vous savez qu'on est dans une société où le discours, j'ai envie de dire, de plus en plus dominant, et qu'on ne peut pas se remettre d'un tel événement à l'âge de 6 ans, que d'une certaine manière, quand on a été violé à 6 ans, la vie est foutue. Or, ça n'est pas exactement ce que vous semblez dire.
Alors, moi, je me garderais bien de faire des généralités, parce que j'ai autour de moi des exemples de
gens qui ont des traumas
majeurs. Dramatiques. Mmh. Et moi, déjà, la chance que j'ai eue, c'est que c'était pas intrafamilial. C'est-à-dire, pour moi, en fait, ce que j'ai vécu, c'est plutôt une agression. C'est dans le sens où j'ai eu peur de mourir, et plus que mon intégrité physique. Mmh. Voilà, pour moi, le plus grand choc, c'est que je me suis fait piéger par un inconnu et j'ai eu plutôt peur de mourir. Alors que j'ai autour de moi des femmes qui ont vécu l'atrocité de l'inceste ou de la répétition des viols. Ça, c'est un enfermement qui doit être terrible. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que c'était un inconnu et que...
On l'a jamais arrêté.
Non, mais j'ai été plusieurs fois au commissariat pour essayer de...
D'identifier.
De l'identifier. Oui. Et à l'époque, c'était quand même vache, parce que on me mettait face à des hommes sans vitre teintée. C'est-à-dire, et je vais dire si c'était lui ou pas lui. Vraiment, aujourd'hui, la police a fait des progrès énormes et on fait plus ça à un enfant, quoi.
C'était début des années 80
c'était à la fin des années 70.
Ouais. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça? Ce viol et le traumatisme qui est allé avec, vous l'avez posé et vous avez tracé votre vie.
Oui.
C'est comme ça Boris Cyrulnik définit un peu ce qu'est la résilience. C'est-à-dire, on peut poser et marcher.
Oui, après, je ne dis pas que j'en sais rien. Si ça se trouve, j'ai l'impression que d'aller très bien et j'ai peut-être des gros problèmes que je ne veux pas voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'abord, mes parents ont vraiment été très enveloppants. À l'époque, les psys, je les ai trouvés franchement pas à la hauteur. Mais ce qu'il y a aussi, c'est ce que je dis, c'est que je sais pas ce que ça veut dire d'aller bien, mais ce que je sais, c'est que, et Cyrulnik qui dit ça aussi, s'il y a un petit brin d'humanité chez quelqu'un, il peut se reconstruire. Et moi, de l'humanité, j'en avais beaucoup.
Autour de vous, à travers vos parents.
Oui.
Alors, c'est donc la musique qui va venir soigner ça comme une sorte de pansement. Et j'ai une curiosité, c'est si vous étiez allé voir un concert de saxophone ou de violoncelle, vous auriez pu probablement avoir le même élan.
Ah, peut-être. En tout cas, la magie, c'est que j'ai entendu ce son dans un cadre aussi. J'étais au théâtre.
Parce que vous connaissiez rien à la musique classique, c'était pas l'éducation de votre famille aussi.
Non. En tout cas, chez nous, c'était plutôt du Brassens. Oui. Mon père s'est intéressé à la musique classique une fois que j'ai eu l'impression que chez moi, les disques de musique classique, il y en a eu à partir du moment où j'ai commencé le conservatoire.
D'accord.
Après, j'ai embarqué tout le monde. Ma sœur en a fait aussi, mon frère. Donc, on s'est mis à écouter.
Donc, est-ce que la clarinette, en fait, avait une attirance particulière, ou est-ce que vous, parce que alors, vous dites que c'est doux, mais un très beau morceau de violoncelle, une suite de Bach, ça peut faire le même effet.
Peut-être, mais alors je crois que la clarinette, ça correspond aussi à quelque chose qui me fait vibrer, et c'est assez proche de la voix humaine déjà, et puis on souffle, et ce souffle, en fait, j'entendais le clarinettiste jouer, mais j'entendais aussi son souffle qui venait jusqu'à moi. Et une fois que j'ai compris que, en fait, ce souffle, c'est ce qui faisait le son, je crois que c'est aussi ce que je ressentais de
apaisant.
Si, ouais, si apaisant.
Mais oui, parce que le souffle passe par le diaphragme et donc il y a un effet physique.
Ah, mais c'est incroyable. On devrait vraiment prescrire des instruments avant à tous les enfants, parce que ça.
C'est anti-stress.
C'est un anti-stress. Le chant, c'est déjà très très bien, mais alors la trompette, la clarinette, c'est...
Alors Morgane, j'ai noté, évidemment ça a tiré mon oreille, à votre arrivée à Paris, un regard assez critique sur l'enseignement de la musique au niveau supérieur. Vous êtes, je suppose, vous ne le dites pas, au Conservatoire de Versailles, c'est ça?
Alors là, en tout cas, la citation après...
Un entraînement quasi militaire où on ne traite comme des bêtes à concours.
Oui, alors c'est pas Versailles, c'est une autre...
Un autre conservatoire parisien.
Et comme je veux absolument pas détruire l'image
de ce conservatoire,
de ce professeur.
Vous êtes critique sur cette manière d'enseigner, manifestement.
Oui, en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai eu plusieurs professeurs. J'en ai eu vraiment deux qui étaient formidables. Monsieur Bastère et puis Philippe-Olivier Devaux. Oui,
de l'Orchestre de Paris.
Oui, qui est formidable. Et puis au milieu, j'en ai eu un qui était... En tout cas, il était bien parce que techniquement, il nous donnait des... On était vraiment très forts au niveau de la technique de l'instrument. Ça, on mangeait des heures de gamme. Mais je trouve que c'était, pour moi, c'était pas un artiste. Et en tout cas, il n'allait pas chercher chez nous le côté artistique, mais plus, ouais, c'était comme un entraîneur de sportif, quoi.
Et là, on tombe sur quelque chose de très intéressant. C'est, est-ce que ces gens-là, qui sont donc des professeurs de musique classique et qui vous obligent à un entraînement technique, les gammes, les exercices, etc., auraient été capables de vous indiquer qu'en chantant dans la clarinette, au lieu de souffler, il y avait une issue pour votre maladie?
Non. Non, ils ne savaient pas. Non, parce qu'au contraire, tous les profs de conservatoire que j'ai eus, vraiment, ce qu'il fallait, c'était envoyer de la pression, envoyer de l'air. Mmh. Allez, vas-y. Et c'était vraiment une force. Ça comprime beaucoup quand on joue dans la clarinette, quand on souffle. Comme il y a une toute petite sortie d'air.
On n'a pas expliqué, parce que vous ne le dites pas, ce qu'est une hanche, c'est donc un petit morceau de bambou, hein, oui. Enfin, de bois.
Oui, l'hanche,
c'est. Qui vibre, c'est elle qui fait le son.
C'est ça. Et en fait. Au conservatoire, en tout cas, surtout à l'époque, c'était vraiment la mode des sons puissants. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération des profs, il y en a vraiment qui ouvrent leurs élèves vers le jazz ou vers la musique traditionnelle. Donc, et moi, j'ai plein de copains profs qui font des trucs extraordinaires avec leurs gamins, avec leurs élèves. Mais de mon temps, c'est vrai qu'il ne fallait absolument pas... improviser une autre technique, la technique académique.
Donc le gouffre, vous dites, c'est un peu comblé entre la musique classique et cette musique klezmer qui est populaire, en vérité.
Oui. Et puis, c'est un petit peu comme quelqu'un qui prendrait des cours de chant lyrique pour chanter de l'opéra, et puis quelqu'un qui se mettrait à chanter de la variété. C'est pas la même technique
au niveau de l'air. C'est ce qu'a fait Nathalie Dessay, par exemple. Voilà. Et avant elle, personne ne l'avait fait en tant que soprano.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est vraiment ce que vous faites aujourd'hui, techniquement. C'est-à-dire que vous chantez vraiment dans la clarinette.
En fait, quand chanter, ça veut dire que quand je souffle dans ma clarinette, je m'imagine que j'envoie le même air que si je chantais.
Ça ne fait pas vibrer les cordes vocales.
Non. Alors, par contre, si je chante en même temps que je souffle, là, pour le coup, c'est très drôle. Ça fait un double son. Et c'est ce qu'on entend dans la musique klezmer. Par moment, on entend des sons qui sont presque brisés. Ça fait comme ça. Ouais. C'est qu'en fait, on envoie de la voix en plus du souffle. Mais il y a aussi qu'on peut jouer de la musique classique en jouant avec un peu moins de puissance. Il y a plein d'air classique que je joue aujourd'hui. Puis je peux en jouer pendant des heures sans me faire mal parce que j'ai adapté ma technique. Et c'est aussi parce que je suis tombée amoureuse d'un flûtiste qui, lui, pour le coup, c'est génial la flûte. Parce que la flûte, on ne comprime pas l'air.
Oui,
on souffle.
On est dans le souffle, dans l'élan du souffle. Voilà,
et en le regardant jouer, j'ai compris aussi... j'ai compris plein de choses sur la technique du souffle, voilà. Mais après, si je veux aller jouer les sonates de Brahms, j'aurais pas cette technique-là, ça c'est sûr.
Donc vous avez renoncé définitivement à la scène en tant que musicienne classique.
Oui, mais j'ai pas renoncé à la scène. En revanche,
pour vos spectacles pour enfants,
voilà.
Ça vous continuez.
Oui, c'est vraiment. Mais pour le coup, je crois que j'étais née pour être passionnée parce que je suis vraiment passionnée par.
Vous êtes passée d'une passion à l'autre.
Ouais, en tout cas, la passion de la musique. C'est ce qui fait le pont entre les deux, et la clarinette, parce que je continue à en jouer. Mais j'aime vraiment, vraiment écrire et chanter des chansons pour enfants et leur transmettre mon amour pour la musique. Quoi.
Une sorte de Chantal Goya plus intimiste.
Alors, non, parce que...
Il fallait que je la sorte.
Non, mais pourquoi pas. Mais moi, je me sens beaucoup plus une enfant de Anne Sylvestre.
Eh oui.
Anne Sylvestre... voilà, c'était mon idole enfant du côté des chansons pour enfants.
Donc on a pleuré tous les deux quand elle est morte.
Ah oui, beaucoup. Ouais. Je venais juste, en plus, d'aller l'écouter à La Cigale. Voilà. Mmh. Donc moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand les parents m'envoient des mails en me disant...
Vous êtes la successeur d'Anne Sylvestre.
Il y a un petit truc d'Anne Sylvestre chez vous. Mmh.
Voilà. Je rappelle le titre de votre livre, Morgane Raoult. Je ne souffle pas, je chante, qui paraît aux éditions Michelon. Merci beaucoup.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.